L'histoire du prisonnier qui sauva la souris qui libéra la licorne qui délivra le dragon qui réchauffa les prisonniers. Conte de Noël du château de Chillon. On raconte qu'il y a un peu plus de 100 ans, à l'époque où les ouvriers et les architectes réparaient et rénovaient le château de Chillon pour le rendre accueillant pour ses visiteurs, un menuisier fit un jour une bien curieuse découverte. Alors qu'il avait pour tâche de réparer un coffre vieux de plusieurs siècles, un de ceux qui sont exposés aujourd'hui dans l'une des grandes salles du château, il y découvrit un très, très vieux livre couvert de poussière. Ouvrant avec précaution la couverture de cuir, il se mit à déchiffrer avec émotion les pages jaunies et écornées. Il y découvrit une histoire extraordinaire, une histoire vraie, venue directement du Moyen-Âge. Celui qui avait écrit cette histoire s'appelait Bérengier d'Ivorne, et c'était, semble-t-il, un poète au service des seigneurs de Chillon dans les années 1420, il y a à peu près 700 ans. Oh, bien sûr, certains grincheux vous diront qu'il ne s'agit là que d'une légende inventée de toutes pièces pour divertir nos petits visiteurs. Peu importe, après tout. L'essentiel est d'aimer les histoires et d'avoir envie d'y croire. Voici donc, pour vous qui aimez les contes, l'histoire du prisonnier qui sauva la souris qui libéra la licorne qui délivra le dragon qui réchauffa le prisonnier. Cette incroyable aventure se passa donc en 1421, au début du mois de décembre. À cette période de l'année, le château de Chillon était paré de ses plus beaux atours. On se préparait à y fêter Noël. Dans les cours, on avait installé une multitude de sapins décorés, une toute nouvelle mode à l'époque, venue des lointains pays du Nord. Les acrobates, les montreurs d'ours et les jongleurs arrivaient en grand nombre à Chillon, en perspective de la fête. On entendait leurs cris joyeux du pont-levis jusqu'au donjon. Les enfants répétaient leur chant de Noël dans la chapelle. Les belles dames finissaient de coudre leurs habits de fête en causant joyeusement. Et les ménestrels, les musiciens du Moyen-Âge, accordaient leurs instruments. Le château retentissait de mille sons agréables. Mais dans les souterrains, ce qu'on entendait, c'était surtout des plaintes et des soupirs. Il y avait là, en effet, à cette époque, un grand nombre de prisonniers enfermés dans la cave glaciale. Certains étaient des brigands, bien sûr, mais certains étaient juste de braves hommes que les difficultés du temps avaient poussés à commettre des erreurs. C'était le cas de Thibault, un bon père de famille, que les froidures de l'hiver avaient conduit à voler quelques légumes sur le marché de Villeneuve. Oh, rien de grave, quelques navets, trois carottes et deux choux, avec lesquels il espérait pouvoir cuire une soupe bien chaude pour réchauffer ses enfants. Oui, il faisait froid, très froid cette année-là dans la région, et la nourriture était devenue fort rare. Mais les soldats du bailli avaient pris Thibault sur le fait et il avait été conduit dans les prisons de Chillon, en attendant d'y être jugé. Bon, il serait sans doute libéré avant Noël, son crime n'était vraiment pas bien grave, et il pourrait sûrement rejoindre sa famille pour passer cette grande fête avec eux. Mais pour l'instant, avec ses compagnons, il devait avant tout survivre jusqu'à son jugement, tenir le coup à tout prix face au froid terrible et humide qui transperçait ses pauvres habits. Thibault et ses compagnons s'étaient regroupés tout au fond des souterrains, autour de la septième colonne de la prison. Se tenant serrés les uns contre les autres, ils tentaient de se réchauffer tant bien que mal. Et de cet endroit, loin de l'entrée, ils n'avaient pas à craindre Belzégarde. Belzégarde était un cracheur de feu de la race des dragons crucifères à poils laineux, comme les appelaient les spécialistes de l'époque. Un dragon originaire du Haut-Valais, où il porte le nom effrayant d'Obervaliser Lockiger Drache. Leur ventre est couvert d'écailles, épaisse et grise, comme chez la plupart des dragons, mais son dos est recouvert de longs poils frisés, des poils brunâtres, et parfois mal entretenu. Les dragons ne sont pas toujours très propres. Au milieu de son dos, ses poils dessinaient comme une croix rousse sur une partie plus claire de son pelage. C'était vraiment un dragon étrange et, il faut bien l'avouer, assez laid. Un jour, s'envolant de ses hautes montagnes natales, Belzégarde s'était laissé emporter par les vents jusqu'aux rives du Léman, où il s'était installé. Mais les créatures du lac n'avaient jamais rien compris à ses grognements, à son effrayant dialecte et à son terrible accent étranger. Il terrifiait les licornes des grands jets, il faisait fuir les hérons du Bouvray. Ce dragon était une vraie calamité. Au bout de quelques siècles, ému par les protestations répétées des sirènes, Amédée, le comte de Savoie, l'avait finalement capturé et fait enfermer dans les caves de Chillon, solidement attaché à l'entrée des souterrains. La chaîne par laquelle il était retenu en captivité avait même été scellée dans le mur, comme disaient les maçons, c'est-à-dire fixée solidement entre les pierres, juste à l'entrée du garde-manger du château. Là, il avait pour ordre de veiller à ce qu'aucun prisonnier ne s'échappe, en échange de quoi les soldats lui donnaient chaque jour de quoi manger à sa faim, ou presque. Triste vie, même pour un dragon. Si un prisonnier avait tenté de s'enfuir, un seul souffle brûlant de Belzégarde aurait suffi à le rôtir entièrement. Les prisonniers en avaient la plus grande crainte. Allongé dans son coin de cachot, Thibaut grelottait en silence. Le vent glacial entrait par les étroites fenêtres et venait refroidir tout son corps. Il entendait, à côté de lui, Gros Robert, un solide maréchal ferrant de Vevey, qui claquait des dents dans la pénombre. Malgré son impressionnante carrure, presque celle d'un géant, lui aussi semblait terriblement souffrir du froid. Tout à coup, les claquements de dents cessèrent. «
Mais, s'écria Gros Robert, mais lequel d'entre vous ose me chatouiller les doigts de pied ? Qu'il arrête immédiatement !»
Même dans l'obscurité, personne n'osa sourire et seul le silence lui répondit.
« Ça suffit. J'ai horreur des chatouilles, surtout entre les orteils !» grogna à nouveau Gros Robert en se grattant furieusement à pied. « Ah, si je l'attrape, celui qui... »
Il s'arrêta net.
« Ah, mais je te tiens !»
Levant la main, il montra à ses camarades la responsable de ses tourments. Une petite souris grise, qu'il tenait à présent pendue par la queue et qui gesticulait la tête en bas, en poussant de petits cris effrayés.
« Oh, tu vas voir, toi. Je vais t'apprendre une bonne fois pour toutes à me respecter. »
Gros Robert ouvrit sa main gauche, son énorme main de forgeron, tout prêt à y broyer la souris.
« Attends, » intervint Thibaut. « Ne la tue pas. C'est bientôt Noël. Et même les souris ont droit à un peu de paix et de bonté à cette époque. Relâche-la. » « Je suis certain qu'elle ne t'embêtera plus. Allons, Robert, pense à l'esprit de Noël. »
Gros Robert hésita quelques secondes. S'il avait un corps de géant, il avait aussi un petit cœur tendre. Il grommela.
« Allez, puisque c'est Noël, va-t'en, petite souris. »
Gros Robert relâcha la petite rongeuse, qui ne se le fit pas dire deux fois. En quelques bonds, elle s'échappa du groupe de prisonniers pour s'enfuir vers un grand trou sur les hauteurs de la prison. De là, en quelques coups de patte, elle se faufila rapidement entre les blocs de pierre vers la cour du château, où elle put enfin reprendre son souffle à l'air libre. C'était l'heure du repas, et tous les habitants de Chillon avaient rejoint les salles à manger, laissant les cours désertes.
« Oh, foi de souris, on ne m'y reprendra plus à vouloir me mettre au chaud dans des chaussures d'humain. Mais il faisait si froid dans cette prison !» « Allez, ce château sur une île n'est vraiment pas un endroit idéal pour y passer Noël. Filons vite vers la terre ferme. »
Prenant ses pattes à son cou, la petite souris trottina rapidement en direction du pont-levis. Mais arrivée au portail qui sépare les deuxième et troisième cours du château, elle s'arrêta net. Face à elle se tenait une blanche licorne. «
Elle en avait souvent entendu parler, mais elle n'en avait jamais rencontré. Même au Moyen-Âge, les licornes étaient des animaux rares et singuliers, qu'on ne croisait pas à tous les coins de ruelle.
Oh, qu'elle était belle!
Intriguée, la souris s'approcha encore un peu.
« Qui es-tu, petite bestiole ?»
demanda la licorne de sa voix claire et distinguée. « Mais tu parles le langage des souris ?» demanda la petite rongeuse.
« Oui, » répondit l'élégant animal. « Tu apprendras que nous, les licornes, nous avons le pouvoir magique de parler toutes les langues de la terre, les langues des hommes comme les langues des animaux. Nous comprenons même les plaintes des fleurs et les murmures des arbres.
Oh, c'est d'ailleurs ce qui fait de nous des êtres supérieurs. » ajouta-t-elle en secouant sa longue crinière blonde.
« Et savais-tu que nous, licornes, nous faisons également de petites crottes roses qui sentent délicieusement bon. C'est même la meilleure odeur du monde. »
« Tu es très belle. Tu fais peut-être des crottes roses, mais tu es bien prétentieuse, » pensa la petite souris.
« Je me nomme Héloïse, » continua la licorne. « Et toi ?»
La souris resta surprise.
« Moi ? « Mais je n'ai pas de nom. Je suis bien trop petite et insignifiante pour ça. Oh, et puis personne ne m'appelle jamais, de toute façon. Quand on me trouve dans une cave, on me chasse et je m'enfuis.
»« Chanceuse, » répondit la licorne. « Tu peux aller et venir librement, toi. Regarde, moi, on m'a attachée à cet anneau à une courte corde. Je ne peux même pas aller brouter l'herbe du petit jardin de l'autre côté de la cour. Attachée !» Moi qui suis l'un des animaux les plus élégants et remarquables de toute la création, moi que le comte est si fier de montrer à tous ses invités.
Tant pis pour toi, pensa la souris. Ce prénom d'Héloïse ne te va pas du tout. D'ailleurs, ce n'est pas un prénom de licorne. Et puis, tu es tellement fier de toi, de ta beauté, de ta longue corne. Eh bien, ça t'apprendra. Et elle détala sur les pavés de la cour.
Mais arrivée à quelques mètres de là, une bonne distance pour une si petite souris, elle ralentit son pas. Devant elle, elle voyait l'un des sapins décorés en prévision de la fête. De drôles de boules de couleur y brillaient à la lumière des bougies qu'on avait allumées au bout des branches. C'était une image magnifique, toutes ces lumières dans la nuit tombante. Une de ces images qui ouvrent le cœur pour y laisser entrer des pensées agréables.
Allons, se dit la souris, c'est bientôt la fin de l'année. Et même cette petite orgueilleuse d'Héloïse a le droit de profiter de l'esprit de Noël.
Faisant demi-tour, la souris retourna auprès de la licorne.
Je n'ai pas de belle crinière et je ne parle que la langue des souris, mais j'ai de petites dents pointues. Si tu le veux, je peux ronger ta corde et te rendre ta liberté. Ce sera mon cadeau de Noël.
Tu ferais cela pour moi ? S'étonna la licorne. Mais la petite souris sans nom avait déjà commencé son œuvre et la corde ne résista pas longtemps avant de céder.
« Te voilà libre, » dit la souris. « Quant à moi, je file. »«
Attends, » lui dit Héloïse, « grimpe sur mon dos. De mon galop rapide, je te conduirai encore plus vite jusqu'à la forêt, où nous retrouverons toutes deux notre liberté. »«
Allons, » ajouta-t-elle, « quittons ce maudit château pendant que ses habitants sont occupés à manger. »
Dès que la souris se fut installée sur son dos, Héloïse se dirigea vers la sortie du château de son trot noble et élégant. Arrivée dans la première cour, Héloïse entendit un grognement qui montait des souterrains. Elle reconnut immédiatement ce langage. C'était la plainte d'un dragon à poils laineux. Oh, elle n'en avait aperçu qu'une seule fois, à travers les brumes de la plaine du Rhône.
Oh, il ne s'était toutefois pas attardé. Cette créature de cauchemar était beaucoup trop laide pour qu'elle s'y intéresse de près.
Mais sa curiosité, aujourd'hui, était la plus forte. « Écoute, » dit-elle à la souris sur son dos, « je voudrais encore aller jeter un coup d'œil à ce vilain dragon. Ensuite, promis, je t'emmènerai loin de ce château. » Mais, épuisée par ses récentes émotions, la souris s'était endormie, confortablement blottie dans la crinière d'Héloïse. Elle ne répondit pas.
De sa corne pointue, Héloïse ouvrit le verrou de la cave et entra dans les sombres souterrains de Chillon. En quelques enjambées légères, elle se rapprocha d'une silhouette allongée à l'entrée du garde-manger. C'était Belzégarde, le dragon, qui grognait dans son coin.
Les gardes sont tous partis manger, mais ils ont oublié de me nourrir avant de passer à table. Ah, j'ai faim. J'ai faim, j'ai faim.
Belzégarde parlait avec un fort accent du Haut-Valais, et même Héloïse avait du mal à le comprendre. Le museau du dragon fumait, son ventre rougeoyait. Il était vraiment en colère.
« Bonjour, vilain dragon. Je garde mes distances, dit la licorne. Je ne voudrais pas que tu me rôtisses et que tu me dévores. »«
Aucun risque,
répondit Belzégarde.
Je ne mange aucune créature magique. Ça me donne des brûlures d'estomac. Tu peux être tranquille. » Ah, et pourtant j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim!
Désolé, dit Héloïse, je n'ai rien à te donner à manger. Je voulais juste vérifier si tu étais aussi laid qu'on me l'avait dit. Ces écailles sur ton ventre, ces longues griffes crochues, ces poils frisés qui dessinent une croix ridicule sur ton dos, ces grands yeux jaunes, effectivement, tu n'es vraiment pas beau. Voilà, j'ai vu. Maintenant, je peux partir. « Au revoir, vilain dragon !»
Belzégarde poussa une terrible plainte. Un gros soupir qui fit sortir quelques flammes de ses naseaux. Un gémissement capable d'attendrir même le cœur d'une prétentieuse licorne. « Bon, dit la licorne, tu as vraiment si faim que ça ?»«
Oui, j'ai faim. C'est toujours comme ça quand je m'ennuie. On me laisse ici tout seul et je n'ai qu'une pensée. » Dévorer quelque chose ou quelqu'un. Chaque fois que je m'ennuie, c'est pareil. J'ai envie de manger, manger, manger.
Je ne peux en aucun cas approuver cette envie, reprit la licorne. Mais c'est bientôt Noël, et j'ai envie de faire quelque chose pour toi. Ma corne est solide et pointue. Je suis sûr qu'avec quelques efforts, je pourrais creuser le mur où tu es attaché et faire tomber la chaîne qui te retient.
Joignant le geste à la parole, Héloïse donna un premier coup de corne dans la maçonnerie qui retenait Belzégarde prisonnier. Le mur s'effrita. Elle reprit de plus belle, encore et encore, jusqu'à ce que l'anneau scellé au mur soit entièrement dégagé et qu'il tombe au sol. Ça y est, Belzégarde était libre. Rugit le dragon dans un souffle enfumé.
Je retrouve enfin ma liberté. Enfin, je vais pouvoir aller dévorer quelques prisonniers et manger à ma faim.
En quelques bonds, Belzégarde avait rejoint la porte de la prison, suivie par Héloïse qui ne voulait rien rater du spectacle. Mais la porte était basse et étroite, et Belzégarde dut s'y reprendre à plusieurs fois pour parvenir à se faufiler dans le cachot. Ses écailles raclaient le sol, son pelage laineux s'accrochait à la poussière des murs. Pas facile pour une aussi grosse bête de traverser un aussi petit passage. Il grognait et s'essoufflait dans ses efforts. Dans la prison, Thibaut et ses compagnons retenaient leur respiration. Ils entendaient que le dragon approchait. Ils savaient que bientôt il serait devant eux, prêt à les rôtir, à les engloutir dans son ventre de feu. Ils étaient terrorisés. D'un dernier coup d'épaule, Belzégarde se libéra de la porte et entra dans la prison. Il fixait maintenant les hommes, groupés au fond du souterrain, de son regard de braise, le ventre déjà rougeoyant de plaisir à l'idée des délicieuses grillades d'humains qui l'attendaient. Mais tandis qu'il avançait de son pas menaçant vers les hommes, tremblant de peur et de froid, une pensée lui traversa l'esprit. Peut-être était-ce l'esprit de Noël ?
Bien sûr, se dit-il. Bien sûr, je pourrais n'en faire qu'une bouchée après les avoir grillés et les déguster avec un peu de sel et de poivre. Mais lorsque je les aurai tous mangés, je serai de nouveau seul. Je m'ennuierai de nouveau, et j'aurai de nouveau faim. Et puis après tout, c'est bientôt Noël.
Alors, Belzégarde fit ce qu'aucun dragon n'avait jamais fait au château de Chillon. Il s'approcha des hommes, s'allongea contre le mur tout au fond de la prison, écarta les pattes, et leur présenta son énorme ventre rempli de feu.
Les hommes n'en croyaient pas leurs yeux. Au lieu de les manger, voilà que le dragon les invitait à venir se réchauffer tout contre son ventre. Ils hésitèrent encore quelques minutes, puis un prisonnier, un second, un troisième, tous vinrent se blottir contre le dragon. Comme elle était bonne, cette chaleur! Refermant ses ailes couvertes de poils autour des prisonniers, Belzégarde leur offrait maintenant comme une couverture de laine qui se refermait autour d'eux. Pour la première fois depuis des jours et des jours, les prisonniers n'avaient plus froid. Ils savaient qu'ils pourraient attendre paisiblement d'être libérés pour Noël et rentrer dans leur foyer. Le dragon leur offrait déjà, avec un peu d'avance, un merveilleux cadeau de Noël. Mais Héloïse s'était prise au jeu. Allongée près de la tête de Belzégarde, qui ne faisait plus peur à personne, elle pouvait traduire les mots du dragon dans la langue des hommes et traduire les remerciements des hommes en langage de dragon. Éveillée par la chaleur qui régnait maintenant dans le souterrain, la petite souris grise, celle qui n'avait pas de nom, avait quitté la crinière de la licorne pour s'aménager un petit nid douillet dans la grande barbe noire de Gros Robert, qui la caressait doucement, de temps en temps, avec un de ses doigts épais. C'était une belle scène que toutes ces différences rassemblées par l'esprit de Noël. Si belle d'ailleurs qu'après leur libération, Thibaut et ses compagnons firent peindre sur le montant d'une fenêtre, au fond de la prison, une large croix, toute pareille à celle qui se trouvait sur le dos de Belzégarde. Un souvenir de ce temps de Noël si particulier. Voilà donc quelle était l'histoire du prisonnier qui sauva la souris, qui libéra la licorne, qui délivra le dragon, qui réchauffa le prisonnier. Cette vieille histoire qui nous vient du Moyen-Âge. Oh, bien sûr, certains d'entre vous diront que tout cela n'est qu'invention, que les licornes ne parlent pas la langue des dragons, que la barbe de Gros Robert n'était pas du tout assez longue pour accueillir un nid de souris, ou que Belzégarde a fini par croquer par erreur l'orteil d'un des prisonniers de Chillon. Bien sûr. Mais on peut quand même retenir quelque chose de cette légende. Que l'on soit comme Thibaut, fautif d'avoir commis quelques bêtises. Que l'on soit comme Belzégarde, celui qui est si fort qu'il fait peur aux autres. Que l'on soit comme Héloïse, la plus belle et populaire des alentours. Ou que l'on soit comme la petite souris grise, tellement timide que parfois les autres nous oublient. Laissons entrer dans nos têtes et dans nos cœurs l'esprit de Noël. C'est comme cela que nous pourrons vivre ensemble et nous tenir chauds les uns auprès des autres. Ah, une dernière chose pour ceux qui ne croiraient pas à la légende que je vous ai contée. Lorsque vous traverserez le château de Chillon, regardez le portail qui sépare la deuxième de la troisième cour. On y voit encore l'anneau de métal où était attachée la licorne. Descendez dans les souterrains et regardez bien à l'entrée du garde-manger, juste après la cave à vin. On voit encore les débris du mur où était enchaînée Belzégarde. Observez la fenêtre tout au fond de la prison. On y devine encore la croix, peinte par Thibaut en souvenir des bons moments passés auprès du dragon. Quant à la souris grise, celle qui n'avait pas de nom, on raconte qu'elle et ses descendants ont fini par s'installer définitivement au château de Chillon. Examinez attentivement les cours. Regardez bien dans les recoins des salles. Elles doivent y être encore.